Milo. L'heure philo sur France Inter en compagnie d'Yves Michaud au programme art, esthétique et même hyper esthétique. Henri-Marc Mutel est à la réalisation, Chantal de Montagny a préparé l'émission, Djoubaka en a choisi les disques, quant à Sofiane Aktib, il est à la console.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
Bonsoir Yves Michaud.
Bonsoir.
Vous signez un essai, donc paru chez Gallimard, « L'art, c'est bien fini », dans lequel vous évoquez l'hyper-esthétique de nos sociétés, ainsi que ce que vous appelez les atmosphères. L'hyper-esthétique, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça correspond exactement? C'est une surenchère de l'esthétique, et c'est cette surenchère, on pourrait dire, cette exagération qui vous intéresse?
C'est une surenchère de l'esthétique, mais c'est surtout aussi une surenchère de la sensibilité, en fait. Ce que j'appelle hyper-esthétique, hyper, ça veut dire aller au-dessus et aller au-delà.
C'est-à-dire donc toujours
que,
plus
en
loin.
Fait, le monde de la sensibilité, d'abord il s'est élargi hein, partout, il est question de être sensible, percevoir sensiblement, être immergé, l'immersif par exemple, mm-hmm. et puis en même temps, je dirais en intensité, eh bien effectivement on est dans une période d'hypersensation, et avec la recherche du choc, avec la recherche de la surprise, avec la recherche de l'étonnement, et puis on passe à autre chose. C'est un peu ça que je veux dire.
Et de quasi-saturation?
Saturation, oui, au sens où, je veux dire, la vie tend à être de plus en plus, tous les aspects de la vie tendent à être esthétisés. C'est ce que je le dis rapidement dans un chapitre, parce que ça a été dit quand même par pas mal de gens, depuis Baudrillard, notamment. C'est-à-dire, bon, l'esthétisation corporelle, l'esthétisation de la mode, le luxe, les vêtements.
Oui, ça commence
etc.
par le corps, d'ailleurs.
Oui. Mais ensuite oui. ça s'étend à tout l'environnement. Une des mm-hmm. choses qui m'intéresse le plus depuis plusieurs années, c'est le design. Parce que finalement, je veux dire, on a complètement rater la gestion de l'urbain et de l'architecture. L'architecture, maintenant, c'est juste des gestes architecturaux ou bien des grands ensembles. Hein. Et en revanche, je veux dire qu'on design pratiquement toutes les situations, que ce soit un studio de radio, que ce soit un bar, que ce soit un restaurant, que ce soit un hôtel qui monte en gamme. On design aussi les expériences. Quand on vend quand on vend de l'événement, quand on vend un défilé de mode, quand on vend une croisière accompagnée par un philosophe, hein, par exemple. Voilà.
Bah, écoutez, plaignez-vous d'être invité à faire des croisières. Mais sur le terme même d'esthétiser, ça veut dire que c'est une fabrication. L'esthétique, ça se fabrique, comme le disait.
Oui, alors un des points sur lesquels j'insiste sur deux choses du point de vue de l'esthétique, parce que c'est quand même, c'est pas un livre d'humeur, hein, c'est un livre sur lequel j'ai travaillé depuis une dizaine d'années. J'ai fait entre-temps d'autres choses, il y avait d'autres choses d'actualité, mais c'est un livre qui est réfléchi et qui vient de loin. Il y a deux choses. C'est d'une part montrer que le concept d'esthétique ne comporte pas seulement le beau, mais comporte en fait tous les éléments, depuis la sensualité jusqu'au beau, depuis je dirais la virtuosité jusqu'au spirituel, et que c'est un concept fondamentalement impur et qu'il faut accepter que ce concept soit impur. Bon, la plupart des philosophes ont essayé de le purifier. Moi, je dis non, il ne faut pas le purifier. Il vient toujours avec toutes ses dimensions. C'est déjà cette première chose. La seconde chose sur laquelle j'insiste, c'est que, comme vous dites, l'esthétique, ça se fabrique. Et ça se fabrique, ça s'est toujours fabriqué. Hein, quand on fait une peinture corporelle dans les tribus primitives dont on ne sait pas si elles ont existé, je veux dire, il y a quelqu'un pour les faire. Mais aujourd'hui, on est passé à la production, je dirais, industrielle de l'esthétique, et c'est ce que j'appelle toute l'importance des esthétiqueurs.
Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est un phénomène à la fois industriel et mondial également.
C'est mondial. Regardez, de toute manière, les choses se sont beaucoup améliorées. Je veux dire, regardez même les petits supermarchés, la manière de locaux, dans la manière dont ils se redesignent continuellement et ils s'esthétisent. Hein. Je veux dire, vous avez un Carrefour normal et puis brusquement vous retrouvez un Carrefour designé.
Alors,
peut être un Franprix, vous savez tout ce
que vous voulez. Il y a des ça veut dire qu'il y a des modes et qu'il y a des injonctions de goût dans cette esthétisation.
Alors oui, mais c'est une injonction circulaire, si vous voulez, parce que moi je crois pas à la théorie du grand méchant capitalisme esthétique. Je crois plutôt à la dictature en fait de la technique et notamment des techniques numériques. Mais en fait, c'est nous aussi qui en demandons de l'esthétique. Hein, pourquoi? Parce que derrière l'esthétique, il y a la facilité, le bien-être, le plaisir, la régression, la sensualité, un monde qui est beau. Hein, je veux dire, c'est plutôt mieux qu'un monde qui est moche. Un monde qui est facile, c'est plutôt mieux qu'un monde qui est difficile et rugueux. Un monde de bien-être, c'est beaucoup mieux qu'un monde de malaise. Donc, vous voyez, c'est nous aussi qui demandons ça. Je veux dire, faut quand même pas exagérer en disant que c'est un complot des capitalistes pour nous vendre de la beauté. On en veut de la beauté.
C'est pas arrivé non plus du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça correspond. Il y a eu un processus. Il y a eu des esprits aussi pour théoriser.
Oui, alors ce que dans le soubassement de mon livre, il y a toute une dimension historique. C'est-à-dire que les choses ont commencé, disons. En gros, et puis ensuite il y a eu des étapes d'arrêt, hein, mais en gros c'est le 18e siècle. C'est la naissance du confort, la naissance du luxe, le début du bien-être, le début de la consommation. Un début de consommation, quand on lit les historiens de l'économie du 18e siècle, ils insistent beaucoup sur la montée de la société de consommation. Bon, ça n'a rien à voir avec la nôtre. Et puis ensuite il y a eu bien évidemment tous les diagnostics sur la société de consommation des années 50, mais aux États-Unis, c'était bien avant, c'était dès les années 20, hein, mais il y a une formidable richesse après ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, et donc toutes les possibilités du plaisir, de la facilité sont là, mais je crois que là où on a franchi une étape considérable, c'est avec l'arrivée du numérique, parce que la vie facile, c'est facile quand on prend un taxi, mais la vie facile quand on peut prendre un téléphone mobile, là ça devient la facilité absolue, l'hyper-facilité, je dirais.
Jeff Koons et son fameux bouquet de tulipes.
Jamais bouquet de tulipes n'aura autant créé la polémique. Celui-ci, signé Jeff Koons, sème la discorde. En 2016, la superstar de l'art contemporain avait annoncé avec l'ambassade américaine son intention d'offrir à la ville de Paris cette œuvre originale Bouquet of Tulips. Un gage de l'amitié franco-américaine et une preuve du soutien des États-Unis à la France après les attentats de 2015. 35 tonnes, 12 mètres de hauteur, 8 de large, l'œuvre se veut monumentale. Par son prix aussi, 3 millions d'euros financés par du mécénat. Elle doit être installée sur le parvis entre le musée d'art moderne et le palais de Tokyo, impensable pour certains. Un collectif de personnalités du monde de la culture a dit non au cadeau de Jeff Koons. Stéphane Coréard, critique d'art et commissaire d'exposition, est signataire de cette tribune.
En réalité, Jeff Koons, comme on l'a écrit, c'est aujourd'hui surtout, tout le monde le reconnaît d'ailleurs, le symbole d'un nouvel âge, d'une partie de l'art, c'est-à-dire qui est industriel. Et c'est très spéculatif, c'est un des artistes qui est aujourd'hui les plus spéculatifs, c'est très spectaculaire. Donc pour nous, ça ne représente absolument pas la forme d'art à laquelle correspondent ces deux institutions. Ce serait finalement comme mettre une statue de Ronald McDonald devant le restaurant de Paul Bocuse. Ça n'a aucun sens, ça n'est pas le même univers.
Alors, il y a le lieu où on place le bouquet de tulipes, mais il reste que Jeff Koons est un artiste symbolique. Donc, qu'est-ce qui reste, Yves Michaud, de l'art dans un monde précisément hyper esthétisé?
Oui, mais ça, je dirais que c'est vraiment de la blague. Hein. J'ai écrit un livre qui, malheureusement, est paru juste au début du confinement, où j'analysais en détail l'opération Jeff Koons à Paris. Bon, disons que c'est, pour dire vite, c'est une opération à deux dimensions. Du côté de Jeff Koons,
mais pas à deux balles, hein.
Pardon. Non, mais c'est du côté de Jeff Koons, c'est une opération spectaculaire de valorisation de son œuvre pour maintenir la cote qui était en train de baisser. Hein, et elle est baissée. Il vient de recommencer avec l'exposition qui a été inaugurée juste aussi à Doha, hein, où comme par hasard on a enlevé tous les éléments érotiques, alors que profondément, comme je le disais dans mon essai, c'est un artiste érotique. Et puis deuxièmement, du côté des gens qui ont commandité et des gens qui ont accepté, eh bien c'est une opération, je dirais, capitalisto-financière et politique aussi de Madame Hidalgo pour luxuriser le tourisme de la capitale. Je veux dire, j'ai analysé en détail l'opération, qui sont les membres des comités, quelles sont les sociétés qui sont impliquées, etc. Je veux dire, il y a eu dans l'opération de Jeff Koons, il y avait un, soutenir la côte qui était pas en bon état, et puis deuxièmement, je veux dire, justifier, légitimer la luxurisation touristique du centre de Paris,
hein,
de tout l'escargot de Paris. C'était uniquement du business et ça correspond exactement à ce que j'appelle l'art contemporain. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que d'abord, combien ça vaut, combien ça fait bouger de gens, tourisme. Et puis finalement, en quoi c'est correct moralement? Alors là, je veux dire, Jeff Koons, il a beau avoir fait beaucoup de pornographie, dès qu'il s'agit de nous vendre du sucre d'orge, ça dégouline.
Mais aujourd'hui,
Coréa a raison.
Est-ce que on est beaucoup entre le plaisir esthétique et l'indignation morale?
Même plus.
Même plus.
Ce que je soutiens dans mon livre, quand je dis l'art c'est fini, enfin une certaine forme d'art, le grand art c'est fini, c'est que justement, ça nous indigne plus. Hein, je veux dire, vous passez devant les tulipes, elles sont moches. Il y a d'autres trucs moches partout dans Paris. Hein. Et si vous regardez vers les grands moulins de Paris, il y a une sculpture en fait de sorte de suppositoire astronautique qui sont pires encore que les
pires encore que.
Ah oui, j'ai vu ça l'autre jour en rentrant de Ivry à pied. J'ai vu ça vers les grands moulins de Paris, l'université Paris 7. Hein. Je veux dire, il y a un truc hallucinant. Je veux dire, là les tulipes auraient été mieux. Bon, donc. Je veux dire, on s'en indigne plus. Hein, je veux dire, on a l'habitude, c'est comme ça. Et puis, deuxièmement, ça ne nous fait rien. C'est aussi ça qui est intéressant. Quand vous regardez les tulipes, elles vous font rien du tout. Je veux dire, j'y suis passé souvent. Vraiment, honnêtement, même quelques temps après l'inauguration, parce que je voulais voir si j'avais pas exagéré dans mon livre, mais ça vous fait royalement rien. Alors que Jeff Koons, dont je connais l'œuvre depuis 1986, au départ, c'est une œuvre intéressante. C'est une œuvre, je dirais, de pop artiste américain, pas très cultivé, de classe moyenne. Moyenne américaine, hein. Et puis, mais le jour où ça devient un business transcendantal, je veux dire, à ce moment-là, je veux dire, il se met à fabriquer. Il avait une centaine d'assistants, hein, je veux dire. Et au moment où on a fait l'opération Tulip, c'était descendu à 30. Il avait dû licencier. Vous voyez un petit peu le truc. Non, allez. C'est du business, c'est pas.
Un petit peu de musique pour vous apaiser. On aura compris que vous ne l'aimez pas beaucoup. Lou Reed sur France Inter.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day.
Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Philosophe Yves Michaud est ce soir notre invité pour son essai intitulé « L'art, c'est bien fini ». De l'art, Yves Michaud, on est passé à des installations, à des dispositifs, à des expériences, à des immersions.
Oui, alors ça c'était déjà la thèse de mon livre de 2003, « L'art est à gazeux », et celui-ci c'est la suite, hein, je veux dire. Et entre-temps, j'ai aussi mis des jalons, puisque j'ai fait un livre sur le tourisme, qui me paraît un des éléments importants de l'esthétisation, un livre sur le luxe.
Le tourisme aujourd'hui, vu comme une expérience.
C'est le luxe, le tourisme, comme une expérience. C'est de plus en plus une expérience. Ensuite, sur le luxe, et aujourd'hui, le lien entre l'art et le luxe, et le grand art et le luxe est omniprésent. Et donc, j'avais dit en 2003, c'était le sujet de l'art à l'état gazeux. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement d'objets. Il y a des atmosphères, il y a des installations. Alors j'étais parti du multimédia, puis à l'époque c'était il y a quand même plus de 20 ans, hein, le multimédia qui s'était beaucoup répandu depuis au moins une vingtaine ou une trentaine d'années. Et du fait qu'il y avait de moins en moins d'œuvres, disons, à contempler en quelque sorte, et vraiment fabriquées par un artiste, et de plus en plus d'installations faites avec beaucoup de compétences, hein, avec des techniciens, des ordinateurs, des éclairages, du son. Quand je dirigeais l'École des Beaux-Arts, j'avais été très sensible au fait que les étudiants commençaient à mettre du son dans leurs œuvres, et comme je trouvais qu'ils faisaient un travail lamentable là-dessus, j'avais engagé un professeur de son, hein, en 1990, hein, de prise de son et de création d'atmosphère. Donc d'une certaine manière, j'ai contribué à ça. Mais donc en fait, on est dans un monde immersif, et de toute manière, l'entrée dans le musée, la préparation de la visite dans le musée, c'est déjà entrer dans l'atmosphère et dans l'immersion.
Et est-ce qu'il y a des zones, ce que vous appelez des zones esthétiques protégées? Elles sont où?
C'est-à-dire, ce que je dis, c'est que l'art contemporain aujourd'hui ne peut exister dans un monde hyper esthétisé par ailleurs. L'art contemporain ne peut exister que dans des zones protégées, quoi, dans des sortes de réserves, ce que j'appelle des ZEP, des zones esthétiques protégées. C'est-à-dire, c'est les musées, mais pas seulement, c'est les galeries, mais c'est aussi les revues d'art, c'est aussi les associations de critiques, c'est aussi, je dirais, les maisons de vente aux enchères. C'est-à-dire que c'est toute une institution qui veille. Ce sont les critiques, les journalistes, c'est toute une institution qui veille à protéger des installations qui sont très ténues, qui sinon n'auraient aucun sens quand elles sont sorties de la zone de la ZEP. Si vous prenez pour prendre l'inévitable exemple de Duchamp, si vous prenez un ready-made de Duchamp et que vous le mettez dans la rue, je veux dire, ça devient ou un porte-bouteille ou je sais pas quoi, ou un vélo, peu importe.
Alors, il y a du
mais
son,
c'est plus une œuvre d'art.
Il y a quelqu'un que vous citez à plusieurs reprises dans votre ouvrage, qui est philosophe, sociologue, compositeur et musicologue, c'est Adorno.
L'art souhaite n'avoir avec ses amis délicats pas plus de rapport qu'il ne lui est inévitable d'en avoir pour satisfaire ses besoins matériels. « My music is not lovely », grommelait Schoenberg à Hollywood, alors qu'un mania du cinéma qui ne connaissait pas sa musique voulait lui en faire compliment. L'art entend se dégager de son aspect culinaire. Cet élément de plaisir gustatif a cessé d'être compatible avec la composante spirituelle.
Qu'est-ce exactement que cet aspect culinaire?
Alors je cite précisément dans les notes longuement ces passages-là, et en même temps je mène une critique très forte justement de Adorno, parce que l'idée d'Adorno, justement, c'est de purifier l'esthétique, c'est-à-dire d'isoler l'élément supérieur de l'œuvre d'art aux dépens de tous ces scories, ce qu'il appelle le culinaire. C'est le plaisir. Je prends un exemple. Vous avez il y a un tableau merveilleux que les gens aillent voir sur Internet, ils le trouveront tout de suite. C'est Jupiter enlevant Io du Corrège, qui est au musée de Vienne. Ce tableau est une merveille de tableau du Corrège, c'est une merveille de tableau maniériste, mais c'est un tableau d'une sensualité. Jupiter se déguisant en nuage avec une énorme paluche veloutée pour enlever Io toute nue. Là où il a envie de l'emmener, vous pouvez pas dire de ce tableau, je vais enlever la sensualité et je vais regarder juste la grandeur de la formelle de la peinture du Corrège.
Même
c'est
pour
pas
l'exposer
vrai.
À Doha.
C'est absolument pas possible. Et je veux dire, Adorno, lui, a une conception extrêmement formaliste de l'art. L'art, c'est des formes, mais ce que je dis, j'analyse longuement ça, les formes ont toujours un contenu, quoi qu'on fasse. Hein, et c'est en ce sens que l'esthétique est fondamentalement impure. Adorno allait jusqu'à dire, lui qui était musicien, et jusqu'à dire une absurdité sans nom, en disant que à la limite, on devrait avoir plaisir à la musique en lisant la partition. Mais je veux dire, mais c'est ridicule. Je veux dire, c'est totalement ridicule. Et effectivement, l'interprétation, par exemple, par Dudamel d'une symphonie de Mahler, ça a un côté sensuel énorme. Il y a une gestuelle, il y a une immersion. Et vous pouvez pas en soustraire la musique abstraite de Mahler, de tout ça.
Ouais. Adorno toujours, mais par le biais du commentaire de Michel Dufresne, spécialiste d'esthétique.
Adorno dit bien que l'œuvre d'art est énigme, c'est-à-dire qu'elle est le lieu de tension. D'une part, l'art revendique son autonomie, et ça, il n'a pas cessé de la revendiquer, surtout depuis qu'il s'est institutionnalisé à la Renaissance, n'est-ce pas ? Tout art tend à être art pour l'art. L'artiste dit « moi, je fais mon œuvre et qu'on fiche la paix ». Bon, mais quand cette œuvre est faite, cette œuvre produit certains effets sur le public qui l'accueille, d'une part. Et de par son contenu, cette œuvre peut, par exemple, célébrer les pouvoirs. Elle peut donc se mettre au service des pouvoirs et les mettre en représentation, les célébrer et véhiculer par là l'idéologie dominante. Mais dans la mesure même où sa forme est quelque chose de neuf, dans la mesure où dans cette forme s'introduisent des dissonances, on pourrait dire des contradictions, n'est-ce pas ? Alors, l'œuvre éveille en quelque sorte une sorte de conscience critique. Ce qui touche, c'est la forme qui crie, c'est la forme qui, à la limite, fait scandale, n'est-ce pas ? L'art n'est pas simplement la politesse, si vous voulez. Il n'est pas simplement la mise en harmonie. Il n'est pas simplement ce qui apaise, il peut être aussi ce qui dérange, il peut être aussi ce qui angoisse, il peut être aussi la fête, par exemple. Dans la fête, il y a quelque chose de sauvage.
Mais l'art, c'est surtout ce qui dérange, non, Michel ?
Oui, mais je veux dire, ce qui dérange, ça peut être aussi de l'esthétique. Moi justement, je n'exclus pas du tout, quand il a même dit la fête à la fin. Je veux dire, ça fait partie de l'impureté de l'esthétique. Je voudrais dire une chose, parce que vous avez choisi ce texte de Michel Dufresne. C'est un des esthéticiens, des philosophes des années 50, fin des années 50, et que j'ai redécouvert en écrivant mon livre, et que je trouve très intéressant. Sa phénoménologie de l'expérience esthétique est très proche des thèses que j'ai sur l'atmosphère, et son livre sur l'a priori, l'idée qu'il y a une sorte d'a priori pathique, P-A-T-H-I-Q, d'a priori de sensibilité, si vous voulez, du sentir, un côté premier de tout sentir, c'est très proche de ce que j'analyse sur l'hyper-esthétique. Et alors, ce qu'on entend dans son discours, c'est aussi très années 50 et 60, c'est-à-dire, il faut que ça soit critique, si vous voulez. Hein. Je veux dire, c'est l'époque de Sartre, c'est des situations, si c'est pas critique, on est des bourgeois. Mais Je veux dire, la critique peut être esthétique, si vous voulez, peut donner du plaisir, la fête donne du plaisir, la célébration politique donne du plaisir, la célébration religieuse donne du plaisir, et tout ça, je veux dire, on ne peut pas distinguer. Non. Alors, il y a des œuvres d'art qui comportent des aspects plus prononcés, certains aspects plus prononcés, il y a des œuvres d'art qui sont totalement politiques, il y a des œuvres d'art qui sont totalement festives en quelque sorte, mais je veux dire, c'est l'ensemble, on ne peut pas faire des distinctions là-dedans,
mais
il est coupé.
Dans une société où précisément il y a une primauté de la sensibilité, comme vous le disiez tout à l'heure, une société un peu molle, une bulle un peu oui. Lisse et facile, ça aussi vous en parlez dans votre essai, est-ce qu'il y a encore de la place pour être dérangé?
Non, puisque justement, on va dans les ZEP, notamment, on y va pour le tourisme, hein, je veux dire, il faut voir que les la justification...
Déjà, aller au musée aujourd'hui, vous ne pouvez pas pousser la... Enfin, pas dans tous les musées, il y a heureusement des musées partout en France...
Il y a des musées où il ne reste personne,
on peut entrer,
et
voilà,
c'est formidable,
ça, plus, voilà,
où mais où on peut faire une expérience...
On leur souhaite qu'il y ait plus de monde,
attentive.
Mais pour certaines expositions...
Non, pas forcément.
Oui, enfin, en même temps, pour que les musées vivent,
le critère économique.
Quand il faut prendre son billet, quand il faut réserver à l'avance, quelle place pour tout à coup une irruption? Vous parlez à un moment donné de la chapelle d'Élise Clovegni à Padoue, il y a les fresques de Giotto.
Bon, on peut aller voir.
De mon temps, comme dirait l'autre, moi j'y suis entrée, on pouvait y aller comme
mais
ça.
Oui, bien sûr. Bien
mais maintenant,
sûr.
Il faut réserver.
Oui. Non, mais je veux dire, ce que je dis dans le livre aussi, c'est que c'est dans ces zones esthétiques protégées, finalement, il y a peu de monde. Hein. Si on regarde le public, comparons dans le cas de Paris, le succès des ateliers immersifs. J'y suis allé, il y a un monde fou. Il y a plein de gens qui viennent de banlieue avec leurs enfants, qui passent 2 ou 3 heures et qui sont immergés dans Klimt ou dans Van Gogh. Hein. Mais, et ils ne vont pas au musée. Et je me suis posé la question, le jour où j'y suis allé, quelle était en fait la différence entre aller visiter une exposition Klimt ou aller à Vienne pour faire le pèlerinage Klimt, et puis aller aux ateliers. La différence, c'est la ZEP, hein, et c'est le projet touristique. Tandis que les ateliers, c'est le projet de passer un dimanche en famille.
Mmh. Mais est-ce qu'il y a, d'une certaine manière, une démocratisation aussi de l'art par cette esthétisation.
Je dis que le paradoxe, c'est que la démocratisation a parfaitement fonctionné, au sens où l'art avec un grand A, c'est devenu un objet d'investissement boursier. Donc ça, ironique ce que je dis là, mais c'est vrai qu'une fois que vous avez beaucoup d'argent, que vous avez des actions, que vous avez des villas, etc., vous achetez de l'art, et il y a de plus en plus de gens qui achètent de l'art.
Ça
concerne peu de gens, mais c'est ironique ce que je dis de démocratisation. Mais sinon, la démocratisation, je dirais qu'elle a pas réussi, parce que, en fait, ce que les expériences esthétiques des gens, c'est le design, c'est le culinaire, la restauration. Regardez, vous pouvez pas avoir une assiette, même en province, qui soit pas avec un jeté de sauce polochien. Hein, je veux dire, partout, c'est esthétisé, la cuisine. C'est
la musique, la musique techno.
Hein, je veux dire, regardez, les rêves parties, légales ou pas légales, je veux dire, les gens cherchent leurs expériences esthétiques ailleurs.
Mais est-ce que ça agit comme un filtre, finalement, sur les expériences qu'on vit, toute cette esthétisation?
Non, je crois pas. Ah si, je veux dire, ça fonctionne comme un filtre au sens où, je veux dire, ça privilégie en fait. Ça c'est la seconde partie de mon livre. Ça privilégie tout un registre de rapport à la réalité qui est complètement différent en avant.
Mais est-ce que l'apparition de la psychologie...
C'est plus un rapport rationnel, c'est un rapport très très émotionnel.
Et la psychologie là-dedans, ça a changé quelque chose?
Ah ben oui, c'est l'importance des émotions, l'importance des sensations, l'importance de l'empathie, l'importance de l'intuition. Je dis d'ailleurs que ça a déjà eu lieu à la fin du 19e siècle.
Voilà, mais l'esthétique, évidemment, elle a une histoire. Là aussi, vous mettez ça en perspective. Quand est-ce que c'est apparu exactement? Et est-ce que ce qui pouvait être esthétique, je sais pas, considéré comme quelque chose d'esthétique au 18e, l'est toujours? Non.
Si, c'est-à-dire le mot esthétique apparaît dans les années 1730, mais ensuite, ce qui se passe, c'est que on voit arriver de plus en plus de catégories qui n'étaient pas esthétiques et qui le deviennent. Le sublime, jusqu'à la laideur, hein, le sublime, le terrifiant, c'est le roman noir à la fin du XVIIIe siècle, le roman fantastique, et puis ça a continué, puisque nous on intègre dans le gore fait partie de l'esthétique aujourd'hui, je veux dire, il y a une esthétique gore, hein, c'est quand vous regardez le film du Cournot, la Titane, c'est un film, c'est de l'esthétique, et c'est de l'esthétique gore, c'est pas beau, hein, mais c'est superbe en même temps. Et on peut intégrer aussi, par exemple, les catégories de l'esthétique orientale. Les choses usées, la beauté des choses usées, fatiguées, qui ont été préservées, c'est une catégorie esthétique. Donc, en fait, depuis la création de la notion d'esthétique, elle n'a pas cessé, je dirais, d'absorber pratiquement tous les éléments de la sensibilité et de la vie quotidienne. Et du coup, ben, on se retrouve dans l'hyper-esthétique. C'est juste ma démonstration.
Luc Ferry.
C'est vrai que quand vous allez au musée dans des musées d'art contemporain, très souvent, les œuvres sont accompagnées de notices relativement longues dans lesquelles on vous explique qu'il faut avoir lu Freud ou Searle, Marx et je ne sais pas qui, pour pouvoir les comprendre. En revanche, quand vous écoutez une petite phrase de Schubert ou de Mozart, peut-être le fait d'avoir fait de l'analyse musicale peut vous aider à entendre certaines choses un peu différemment, mais la plupart des gens peuvent les entendre sans avoir besoin de commentaires. Cela dit, la question des critères du beau, pour y revenir en un instant, c'est vrai que dès le XVIIe, XVIIIe siècle, on a apporté à cette question un certain nombre de réponses qui sont tout à fait intéressantes. Par exemple, les classiques français ont défendu l'idée qu'une œuvre était belle quand elle traduisait, dans un matériau sensible, une grande vérité commune à l'humanité. Et c'est vrai que, après tout, c'est une définition de la beauté qui n'est pas absurde. Le fait qu'on traduise une grande vérité commune à l'humanité ou une grande expérience commune à l'humanité plutôt dans un matériau sensible qui peut être le marbre du sculpteur ou qui peut être la couleur du peintre ou les vibrations sonores du compositeur. Et je crois que ce type de critères du beau, ce sont encore des critères qui sont pertinents pour aujourd'hui et que dans le cas de certaines œuvres contemporaines, on peut se demander en effet si on a affaire à une grande expérience ou au contraire à une espèce de truc d'utilisation de l'idéologie d'avant-garde à des fins qui sont souvent des fins mercantiles ou même d'obtention de subventions de l'État, etc. Et je crois que c'est quand même le grand problème de l'art contemporain, c'est le problème du public.
Et la vérité commune du beau, déjà là-dessus.
Oui, alors là, ça veut dire c'est quelque chose que je peux pas du tout accepter.
on s'en
veut dire, mais simplement, on a juste qu'à donner un contre-exemple. Ce que Luc Ferry nous suggère, c'est une beauté à la limite, la beauté des sculptures grecques décrites par Winckelmann. Winckelmann a été extrêmement important, je dirais, dans la constitution de l'esthétique et d'une esthétique cette fois-ci extrêmement limitative en se réduisant au beau. Mais qu'est-ce que vous faites à ce moment-là d'une statuette olmèque qui est disgracieuse, avec les visages déformés, et en même temps, ça vous touche beaucoup aussi, mais je vois pas en quoi c'est ouvert, ça révélerait une vérité pour toute l'humanité. C'est quelque chose dont j'ai traité dans un autre livre, là, Critères esthétiques et jugement de goût, c'est qu'en fait l'esthétique de l'intuition immédiate, elle est à la fois juste et toujours trompeuse. Hein? En revanche, je veux dire, la vérité de l'esthétique, c'est qu'il faut une initiation. Contrairement à ce que dit Luc Ferry, c'est pareil pour la musique. Nous savons tous que quand nous avons commencé à aimer la musique, on a aimé des choses assez simples, et au fur et à mesure que notre oreille s'est affinée, on a pu écouter des choses plus compliquées. Ça ne veut pas dire qu'on puisse écouter du Boulez ou des choses comme ça facilement. Mais je veux dire, et je dirais
oui,
même
si
le contraire.
Oui, si on est initié, on l'apprécie que mieux.
Et en fait, l'histoire de l'esthétique, c'est toujours l'histoire de l'éducation du goût. Je veux dire, que l'on a par la famille, que l'on a par l'école, que l'on a soi-même, en allant au musée ou en allant... Bon, ben, il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, cette éducation du goût, elle ne fonctionne plus. Elle se fait ailleurs. Quand j'ai écrit mon livre sur le tourisme et sur Ibiza, j'ai été sidéré, en étudiant de près la question de la musique techno, de voir l'incroyable érudition musicologique des fanatiques de musique techno. C'est incroyable et c'est aussi sophistiqué que les textes sur Piero della Francesca, mm-hmm. avec un vocabulaire que l'on n'a pas.
Vous avez déjà vu David Guetta ?
Pardon ?
Vous avez déjà vu
Non, parce que moi je m'intéresse à des DJ plus sophistiqués comme Ricardo Villalobos. J'ai une bonne érudition en musique techno à cause au départ de Ibiza et de mon livre sur lui qui est, il y a une dizaine d'années. J'aimais beaucoup la musique techno. Bon, il y a eu un coup d'arrêt énorme avec le Covid parce que la profession est complètement sinistrée. Il y a plus de spectacles. Les boîtes de nuit sont fermées.
Il y en a quelque part dans le monde, David.
Il y en a quelque part. Mais David,
parce qu'il accepte un certain compromis.
Oui, non, mais bien sûr. Mais il se produit dans la technologie, si vous voulez. Il se produit le même phénomène que dans l'art contemporain. C'est-à-dire, vous avez des super vedettes qui font même travailler quelquefois des compositeurs dans l'ombre, et puis vous avez des gens qui sont innovants à un certain moment ou très régulièrement. Hein, je donnais l'exemple de Ricardo Villalobos parce que c'est une techno minimaliste que j'aime bien. Jennifer Cardini, qui est une Française qui est installée à Berlin, fait aussi une musique très sophistiquée. Voilà. Mais
les rapports entre le bien et le beau et le bien, je sais pas, sont vieux comme le monde. Est-ce que aujourd'hui, le bien passe par le beau?
Non, le beau passe par le bien. C'est qu'aujourd'hui, dans l'esthétisation, il faut aussi esthétiser la morale. Il faut esthétiser les bonnes actions.
Veut dire qu'on tient beaucoup compte des apparences.
Cela dit, si dans l'art on tenait pas compte des apparences, qu'est-ce qu'il y aurait? Je veux dire, l'art c'est que des apparences.
L'art c'est que des apparences.
C'est ce qu'on perçoit. Hein, c'est des expériences là.
Mais dans une sorte de Moyen-Âge esthétique aujourd'hui.
C'est ce que je soutiens, c'est qu'effectivement on est dans un Moyen-Âge esthétique, c'est-à-dire que au Moyen-Âge, pour autant qu'on puisse reconstituer une pensée médiévale sur la beauté, parce qu'en fait, c'était une pensée religieuse, hein. Donc tout était beau parce que c'était la création divine, hein. Tout est beau dans la lumière de Dieu. Bon, aujourd'hui, tout est beau, mais il n'y a plus Dieu. Il n'y a plus la lumière de Dieu. Tout est beau dans la lumière des esthétiqueurs, je dirais. Au Moyen-Âge, l'esthétiqueur suprême, c'est Dieu. C'est un grand esthétiqueur, et puis en plus il n'y a rien à dire, il n'a rien raté. Mais aujourd'hui, le monde est parfait à cause des esthétiqueurs, que ce soit Guetta, que ce soit Philippe Starck, que ce soit les frères Bouroulec, que ce soit... voilà, c'est ça.
Marcel Duchamp, vous en parliez tout à l'heure, Yves Michaud, probablement l'un de ceux qui a le plus interrogé la notion d'art.
Tout ce qui représente... La peinture religieuse, la peinture depuis la Renaissance, de toute la Renaissance italienne, est entièrement matière grise, si j'ose employer ce terme, quand je veux dire par là religieuse. C'est-à-dire que l'idée était de glorifier une religion, la religion, le dieu catholique ou autre, ça. Mais le côté peinture lui-même, le côté rétinien du tableau était très très secondaire, plus que secondaire. C'était l'idée qui importait à ce moment-là. Et c'est ce qui m'est arrivé à ce moment-là, en 1912 ou 13, avec l'idée de vouloir changer ou du moins me débarrasser de l'héritage rétinien des 100 dernières années.
Vous dites à ce moment-là, les tableaux ont de la poussière au derrière.
C'est ça, c'était ce qui m'a fait dire des choses comme ça, parce que il fallait se débarrasser et obtenir une autre ouverture sur d'autres paysages.
Notre héritage rétinien serait lié à une sorte d'inconscient collectif, Yves Michaud ?
Oui, alors là, je suis navré d'être en désaccord chaque fois. Mais effectivement, quand on essaye d'introduire des idées nouvelles, c'est pas forcément étonnant qu'on ne soit pas d'accord avec les stéréotypes habituels. Ce qu'il dit sur la peinture de la Renaissance est complètement faux. La peinture de la Renaissance, elle est religieuse, mais elle est effectivement d'idées, parce que les gens sont illettrés, hein, sauf les commandes de haut de gamme. Mais sinon, je veux dire, le retable, c'est une industrie. La décoration des églises, c'est une industrie. Et c'est pour apprendre aux gens l'écriture. Les travaux de Michael Baxandall ont très bien montré ça. Et donc, la peinture doit être belle aussi. Je veux dire, le rétinien fait partie justement du charme de la leçon. Et puis, ça fait partie aussi, le rétinien, alors c'est là où on rejoindrait peut-être un petit peu Duchamp, ça fait partie, je dirais, de de la gloire de l'artiste. Plus un artiste est coté, plus on lui demande de faire lui-même le tableau et d'utiliser des matériaux rares. Il y a des discussions infinies entre commanditaires et prestataires sur la qualité des bleus, par exemple, parce que le bleu de lapis lazuli est très cher. Et puis il y a d'autres bleus qui sont moins bien. Et si on commande à Piero della Francesca un tableau avec du ciel, il faut que le bleu soit peint par lui et soit en lapis lazuli.
Mais l'héritage rétinien, Yves Michaud, il est... Je veux dire que, il, par exemple, si on voit une fontaine, puisqu'on parle de Marcel Duchamp, qu'est-ce qui se déclenche dans le cerveau à ce moment-là? On voit,
Ce qui est intéressant chez Duchamp,
c'est une démarche après de comprendre l'humour, de comprendre ce détournement des objets du quotidien. Pour c'est le geste artistique à ce moment-là.
Alors moi, mon admiration pour Duchamp, elle est réelle, mais elle est très limitée. C'est-à-dire qu'effectivement, du point de vue conceptuel, il introduit, la place du conceptuel. Du point de vue du concept d'art, il montre que l'art répond à des concepts. Et avant d'être du matériau, avant d'être au service d'une cause, etc., il y a un concept une intention de l'artiste, c'est une intention qui est conceptuelle. Entre parenthèses, la théorie des quatre causes d'Aristote permettrait aussi bien de rendre compte de tout ça. Mais c'est une autre.
Elle a développé un tout petit peu pour nous.
Mais si, parce que il y a quatre causes, pour produire un objet, c'est la cause formelle, c'est la forme de la cause intentionnel, c'est ce qu'on veut réaliser. La cause matérielle, c'est-à-dire le matériau, le bois dont est fait la statue, et puis la cause efficiente, c'est l'artiste. L'artiste a eu un projet intentionnel, formel, ça prend une forme, et c'est avec un matériau. Or, ce que fait Duchamp, c'est que lui, il choisit purement la dimension intentionnelle, si vous voulez. Et donc, il accomplit une certaine révolution dans l'art. Maintenant, ce que je mets en cause, si vous voulez, c'est de dire que cette révolution a été essentielle. Bon, oui, non, c'est pas vrai. L'histoire de l'art du XXe siècle ne tourne pas autour de Duchamp. C'est notre reconstruction qui l'a fait tourner autour de Duchamp. Et d'autre part, je veux dire, tous ceux qui aujourd'hui répètent Duchamp, j'ai dirigé une école d'art, j'en ai vu, des petits Duchamp partout. Ceux qui répètent Duchamp sont parfaitement inintéressants, parce que ce qui est intéressant chez Duchamp, c'est le geste inaugural. C'est qu'il ait eu le culot et la réussite de faire
à la
passer...
fois, oui, il a été révolutionnaire de ce point de vue.
Ah, ça, de ce côté-là, il est révolutionnaire.
Par la provocation aussi.
Et les historiens comme Thierry de Duve, qui ont bien étudié ça, ont montré comment, par quelle machination, il a réussi à faire passer sa fontaine comme une sculpture dans une exposition où tout était accepté, mais où il s'est débrouillé pour qu'on la refuse. Il s'est débrouillé pour la faire photographier par Stieglitz, qu'elle soit exposée chez Stieglitz. Il y a une machination, et c'est toute l'astuce de son geste révolutionnaire. Mais après, tout le monde peut en faire du Duchamp, une fois qu'on a compris la...
Ça, je sais pas.
Et les gens se privent pas.
Yves Michaud, vous êtes donc notre invité ce soir, Arthur Hage, sur France Inter, extrait de son mini-album, mini n'ayant rien à voir avec sa qualité. Nancy.
Si tu savais comme la mer est belle ce soir, quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir sur le sentier. L'étoile filante s'est sauvée hors de tout regard. Les yeux fermés, j'ai brodé les fils d'or de ton corps. La nuit a divulgué tes audaces dissimulées. La nuit a désarmé mes rêves les mieux gardés. Belle ce soir, quand la lune se lever. J'ai cru t'apercevoir au loin danser. Nancy, c'est là. C'est là, sinon Nancy. Nancy, c'est si lent. Silence, non, Nancy. Tu as déjà mis ta robe blanche et ton visage resplendit, allongé comme évanoui. J'imagine que tu souris, comme dit Rimbaud, à peu près. L'éternité, quoi, est retrouvée. Oh, belle Arthur, le supplice est sûr. Nancy s'en est allée. Au loin danser. Nancy, c'est là. C'est là, sinon, Nancy.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
Comment s'appelle le peintre Antrios, connu? Très, très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs.
Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antrios.
Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs.
J'étais sûr que tu passerais à côté.
Tu as acheté cette merde de 200 000 francs.
Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non content d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu chez l'adepte du bon vieux temps une arrogance vraiment stupéfiante. Comment peux-tu dire cette merde ?
Extrait de la pièce Art de Yasmina Reza, hein. Une pièce au succès phénoménal. L'argent, le marché, la spéculation, qui est donc parce que l'art c'est aussi un nouveau type de placement, c'est une part intrinsèque de l'art. On peut penser à Christie's aussi, à Sotheby's, qui sont hein, des qui marchent bien hein, quant à la spéculation, qui font la pluie et le beau temps. Cette valeur financière, est-ce que vous diriez que ça correspond, Yves Michaud, à un art un peu dévoyé ou ça a toujours
non.
existé?
Alors, l'art a toujours pas tout art, mais l'art a toujours été une affaire d'argent. D'abord parce que pendant très longtemps, il a été réservé, il n'a pas été pour le public, il a été réservé aux congrégations religieuses
et
aux princes.
Les artistes dépendaient des mécènes, aujourd'hui ils dépendent du marché.
Ah non, mais attendez, il dépendait du marché aussi, je veux dire. Attendez, le Tintoret, le Titien, oui, c'était des ateliers comme ceux de Jeff Koons, hein. Il y avait des tas d'assistants, etc., qui peignaient, puisque comment ils auraient pu peindre tout ce qu'ils ont peint
évidemment.
Quand vous regardez tous les Tintorets qu'il y a à Venise, je veux bien qu'il était avec des forces exceptionnelles, mais quand même. Bon, donc l'art a toujours valu beaucoup d'argent. Mais et si vous regardez les prix, par exemple, des peintres académiques du 19e siècle, c'était très important, et maintenant, ça vaut plus grand-chose. Simplement, ce que je dis, c'est que c'est là où je parle de démocratisation, c'est-à-dire que le système, qui était un système qui restait relativement élitaire ou qui était contrôlé par des institutions, encore une fois, comme l'Église ou comme les princes, maintenant, c'est ouvert à tout un chacun, comme les valeurs de la bourse. Et, je dirais, ça fonctionne comme la financiarisation d'une économie, et d'une économie où il y a trop d'argent. Hein, on a fait fonctionner la planche à billets depuis 20 ans d'une manière exceptionnelle. Il y a de plus en plus d'argent. Il y a de plus en plus d'argent, je dirais, non seulement qui circule, mais sur lequel des gens gagnent de l'argent, que ce soit des traders, que ce soit des cabinets d'avocats, par exemple. les cabinets d'avocats d'affaires qui traitent des fusions et qui ont des commissions gigantesques là-dessus. Donc il y a de plus en plus d'argent. Donc du coup, l'art devient un placement spéculatif comme un autre. Vous avez parlé des maisons de vente aux enchères. Eh bien, elles font partie du système, comme du système boursier, avec cette différence, c'est qu'il y a malheureusement pas d'autorité des marchés financiers. Et que aussi que ce soit Sotheby's ou que ce soit Christie's, surtout maintenant pour Christie's, pour Sotheby's, le problème c'est que le marché, avec le rachat par Patrick Drahi et la transformation en société personnelle, les transactions qui ont lieu chez Sotheby's sont parfaitement opaques. Mmh. Donc quand il y a une grande vente, le Banksy par exemple, vous savez pas si elle a vraiment eu lieu. Le coût de la toile qui s'autodétruit, il était monté, parce que vous n'allez pas me faire croire que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une broyeuse dans le cadre de votre tableau. Je veux dire, il faudrait vraiment être naïf. Et puis ensuite, l'opération qu'on le revend une autre fois, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il a été payé? Qu'est-ce qui nous dit que ça s'est passé? Je veux dire, la plupart des bons spécialistes du marché de l'art ont dit que lorsque Sotheby's est devenu une société privée, c'était la garantie de l'opacité du marché. Et là, ce que j'ai dit aussi dans mon livre, c'est que ce marché du bancable, ce qui est un artiste bancable, ce marché, il est très, très obscur. Il y a beaucoup de blanchissement. Il y a beaucoup de tableaux dans des zones défiscalisées aussi, gardés dans des réserves. Beaucoup de gens achètent des tableaux sans même les voir. Hein, je veux dire, ils savent. Ou alors avec des petites photos.
Ils les mettent dans des coffres-forts.
Il y a des opérations de LBO, de leverage buyout, par exemple, des galeries qui achètent tout un fonds d'atelier pour essayer de relancer un peintre qui était sous-coté. Hein, ça vient de se passer Gagossian pour Simontaille. Donc, c'est pas différent du passé, mais c'est devenu universel.
Une échelle gigantesque. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, Michaud, une fascination pour les grands maîtres, pour les génies? Il y a encore ça ou pas?
Non, je pense qu'il y avait encore ça, il y avait 30 ans, c'était Van Gogh.
Considéré comme un phare de l'humanité.
Voilà, c'est ça, exactement, comme les phares de l'humanité. Maintenant, non, les phares, c'est ceux qui vendent très cher, c'est Kuntz, c'est Tracy Emin, c'est Catalan, c'est ça. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ça n'empêche pas qu'il y a encore des artistes qui font des choses qui peuvent être aussi des choses bouleversantes. Mmh. Hein, il arrive que, au milieu de tout ça, on tombe sur des choses qui sont remarquables.
Alors, on veut des noms.
Ben, écoutez, moi, j'ai eu l'expérience dans les années récentes d'être très proche de Etel Adnan, qui vient de mourir. C'est une femme qui était une immense poétesse, ce que les gens savaient pas, qui a commencé à peindre, mais qui n'était pas du tout intéressée à promouvoir son œuvre. Elle en vendait à quelques amis de temps en temps. Et puis, on l'a découverte à la Documenta de Cassel en 2012, hein, alors qu'elle avait 80 et quelques années. Et alors, brusquement, là, le marché s'en est emparé, pas encore autant qu'il ça va venir, mais quand on découvrait ça, tout le monde était bouche bée, si vous voulez. Justement, elle n'avait jamais essayé d'avoir des assistants, elle n'avait jamais essayé de promouvoir ça avec des techniques contemporaines. Pour ses rapports avec les galeries, il y avait surtout des rapports un peu amicaux, et c'était d'un grand désordre. Il existe encore des choses comme ça.
Donc on peut dire qu'il y a une certaine fin de l'art, mais pas une mort de l'art.
Il n'y aura jamais de mort de l'art, parce que l'art, c'est, de toute manière, c'est une pratique humaine indispensable. Même quand quelqu'un fait une petite couture, ou quand quelqu'un fait un petit objet, une maquette, hein, pour son plaisir. Mais l'art, tel qu'on l'a célébré, si vous voulez, le grand art.
C'est un phénix. Il renaît toujours de ses cendres.
Je pense, on verra, parce que de toute manière, je veux dire, encore une fois, l'histoire de l'art, elle n'est pas linéaire. Hein. Il y a des moments où le 18e siècle, c'est la décoration, c'est le rococo, c'est le confort, c'est le maniérisme.
Oui, mais après.
Et puis après, ça rebondit. Et qu'est-ce qui vous nous disait que en année 1760, on allait avoir du néoclassicisme et du romantisme? C'était pas évident. Hein.
Merci Yves Michaud, l'art c'est bien fini, essai sur l'hyperesthétique et les atmosphères, c'est donc un essai que vous avez publié chez Gallimard. La semaine prochaine, Yves Cusset sera notre invité, il est philosophe et humoriste et il signe un livre sur la fin de vie.